Vous écoutez
RMC.
On est ensemble sur RMC, on vous fait vivre évidemment cette Coupe du Monde 2026 en direct de New York, du New Jersey. À ma droite, j'ai Walid Al-Cherchour, à ma gauche, j'ai Julien Laurence, et on vit évidemment la finale du groupe F avec beaucoup d'enjeux, plusieurs équipes qui peuvent encore prétendre à la première place. On rappelle que pour l'instant, les Pays-Bas mènent 2-0 face à la Tunisie. On va s'intéresser au Japon-Suède, un match très important également pour les deux équipes. Le Japon comptait 4 points avant la rencontre, la Suède 3 points, et on est donc avec Morgan Mori pour vivre ce Japon-Suède. Il n'y a aucune des deux équipes qui prend vraiment le lead dans cette partie pour l'instant, Morgan.
Non, peut-être un léger avantage à la Suède. Le Japon a eu sa première occasion il y a quelques minutes avec une frappe de Ueda un peu trop enlevé, 29 minutes, 0 pour le Japon, 0 pour la Suède. On a un track chez les Suédois, le meilleur c'est le joueur de Newcastle, Elanga, qui est très remuant sur son côté droit. Par contre, Alexander Isak, la pointe des Reds de Liverpool, est pratiquement absente dans cette rencontre face aux Japonais. 29 minutes, Japon 0, Suède 0, match extrêmement haché aussi par les fautes.
On va s'intéresser également, messieurs, à l'équipe de France. Bien évidemment, demain, ça sera la finale de leur groupe avec ce match entre les Français et les Norvégiens qui va se jouer à Boston. On va tout de suite retrouver Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Karine, salut à tous.
Fabrice, on rappelle que les deux équipes ont évidemment gagné leurs deux premiers matchs. Il y a 6 points pour les deux nations. La France est juste devant grâce à la différence de but. Ce match est ô combien important. Aujourd'hui, à J-1, il y avait la traditionnelle conférence de presse. Cette fois-ci, donc, c'était Guy Stéphan qui devait suppléer, décidément, je ne vais pas y arriver, Didier Deschamps.
Ouais, qui devait suppléer Didier Deschamps, Guy Stéphan, qui a, ce n'est pas une première, hein, il avait déjà tenu ce rôle en 2022, en juin 2022, quand Didier Deschamps avait perdu son père. Guy Stéphan, il était un peu gêné, sensation un petit peu bizarre, il nous expliquait, je cite, j'ai la sensation que je ne suis pas à ma place. Il confessait prendre la place de Didier Deschamps, lui qui est habitué plutôt à poser les plots, à donner les consignes tactiques, à être plutôt en arrière-plan. Ce rôle vraiment au devant de la scène ne lui allait pas forcément. Il a quand même, alors non seulement, et c'est tout à fait logique, eu un hommage pour Didier Deschamps et pour sa maman décédée, et il a également expliqué le lien qu'il allait avoir avec Didier Deschamps dans la préparation de cette rencontre. C'est-à-dire que on a bien compris que le sélectionneur de l'équipe de France allait faire la composition de l'équipe, que les choix stratégique allait être réalisé par Didier Deschamps, et lui en revanche il va moduler, il va faire des changements, il va s'adapter pendant la rencontre. Il ne sera pas en connexion, en lien direct avec Didier Deschamps pendant le match, et Didier Deschamps qui aura la douleur d'enterrer sa maman ce vendredi.
Effectivement, ça sera évidemment un match très particulier. Aux côtés de Guy Stéphan, il y avait donc Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, qui a été en conférence de presse. On va peut-être l'écouter, Aurélien Tchouaméni, justement, sur l'importance de terminer premier du groupe.
Déjà, moins de voyages, ça c'est une réalité. Parce que on sait qu'en finissant deuxième du groupe, il y aura beaucoup plus de périples à faire. Mais au-delà de ça, en tant qu'équipe de France, on se doit de gagner tous les matchs. Et ça veut dire qu'on se doit de finir premier de ce groupe-là. Après, comme je l'ai dit, qu'on joue la Norvège, l'Irak ou le Sénégal. Honnêtement, demain, notre objectif principal est de gagner le match. Et on sait que si on fait les choses bien et qu'on gagne le match, on sera dans une bonne position pour la suite.
Fabrice, il a été question donc de logistique dans les propos de Tchouaméni. C'est vrai que si les Bleus terminent premier, le 16e de finale, ça sera dans le New Jersey. Donc, ils auront joué tous leurs matchs pour l'instant sur la côte Est. Et c'est évidemment important lorsqu'on voit les distances dingues qu'il peut y avoir aux États-Unis. Et encore plus si tu es obligé d'aller jouer au Mexique ou au Canada, selon les groupes.
Ouais, totalement. Toujours l'idée de privilégier la récupération et donc réduire les temps de trajet. C'est simple. S'ils finissent premier, ils vont refaire le même circuit, c'est-à-dire New York, Philadelphie, Boston. Donc ça, c'est jusqu'au quart de finale. Ils auront ensuite un match à Dallas si jamais ils ont le bonheur de se qualifier pour les demi-finales. Puis ils reviendront à New York. Donc globalement, tu restes dans la côte Est et surtout, tu fais un circuit que tu as déjà fait et que tu connais par cœur. S'ils terminent deuxième, c'est pas la même sauce. Ils vont dès mardi prochain aller à Dallas. Donc pour le 16e de finale, ensuite New York, puis Miami en quart de finale et Atlanta en demi-finale. Donc vous voyez, on voyage un petit peu plus, même si on va pas non plus sur la côte ouest. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de voyages, ça dure beaucoup plus longtemps, des stades qu'ils connaissent pas forcément, ils ont moins leurs habitudes. C'est pour ça qu'ils préféreraient réellement terminer premier pour être dans ce confort entre guillemets. Et puis même s'il faudra battre toutes les équipes et les meilleures nations, si l'équipe de France veut être championne du monde. monde. C'est vrai qu'en finissant premier, on s'évite des équipes comme le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, avant la finale.
Messieurs, un mot sur cette gestion des organismes. C'est vrai que là, on a entendu Tchouaméni, qui est vice-capitaine, qui dit voilà, nous, forcément, on veut être premier pour la dynamique, pour évidemment aussi continuer à entretenir cette spirale positive, mais aussi parce qu'au niveau des trajets, ça change quand même pas mal de choses.
Ouais, mais c'est logique, bien sûr, toute cette logistique-là, le fait de que ce soit moins fatigant de voyager, même si voilà, dans des très bonnes conditions. Je rejoins aussi Fabrice sur le fait que c'est des stades qui vont connaître, des hôtels aussi qui vont connaître, où tu retrouves un petit peu tes habitudes, ta routine. C'est très important aussi à ce niveau-là, quand ça fera déjà 3 semaines qu'ils seront arrivés ici, quasiment un tout petit peu moins. Ça fera déjà même plus que ça qu'ils sont tous ensemble depuis les débuts à Clairefontaine. C'est important. Et puis après, gagner aussi pour ton statut, toi. On regarde Nagelsmann avec l'Allemagne. C'était quasiment l'équipe type, à part le changement à gauche et en défense centrale, mais c'est parce qu'il y avait des blessés. Parce que tu veux gagner, parce que tu veux aussi des automatismes qui progressent. Que ces joueurs-là aient l'habitude de jouer ensemble, hein, au lycée, hein, Mbappé. Alors, il y aura quelques changements, j'imagine, Fabrice, sur l'équipe, sur les Bleus, mais c'est tout à fait normal, comme on l'a vu pour le deuxième match.
Oui.
Aussi, parce que, bon, je pense que Tchouaméni va revenir, tu pourrais peut-être reposer Rabiot, Saliba, Malodo, ce genre de choses-là.
Tout te dire, Julien, t'inquiète.
Oui, mais c'est aussi logique, on en parlait encore une fois l'autre soir, on s'était projeté déjà sur ce que Deschamps allait peut-être faire, Deschamps et Stéphane allaient faire, et ça a du sens.
Alors justement, Fabrice, parce que c'est vrai que nous, on avait certaines informations, on militait notamment pour un changement du côté de l'arrière-droit, ça ne sera pas le cas, en tout cas la tendance est passée. Est-ce que tu peux nous donner la composition probable ?
Oui, il devrait y avoir 4 changements par rapport à l'équipe qui a joué contre l'Irak mardi, avec Mike Maignan dans les buts, ça ne bouge pas. Dayo Upamecano, l'un des tauliers de cette équipe de France en défense centrale, qui devrait être accompagné de Maxence Lacroix plutôt que d'Ibrahima Konaté, donc par rapport à la blessure, hein, toujours de, en tout cas la gêne de William Saliba, qui lui pour le coup serait au repos et je pense qu'il va même pas jouer une minute. À gauche, c'était Hernandez qui va récupérer sa place, et à droite, on pensait que Malo Gusto pouvait avoir sa chance. Eh bien non, la grande tendance ce soir, c'est que Jules Koundé joue une troisième fois et démarre en tout cas le troisième match des Bleus après avoir commencé les deux premiers. Au milieu, Koné et Tchouaméni, donc Rabiot va se reposer. Et puis devant, on fait pas tourner Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. En revanche, Bradley Barcola est laissé sur le banc et Désiré Doué retrouve une place de titulaire. Donc il y a 4 changements avec Maxence Lacroix, avec Aurélien Tchouaméni qui revient dans le 11, avec Désiré Doué également, et avec Théo Hernandez.
Le micro.
On va s'arrêter sur ces informations qui sont très importantes données par Fabrice. Il y a quand même 2 grands déçus a priori. Konaté, eh bien là, c'est effectif, il devient numéro 3 dans la hiérarchie. Lacroix, donc, qui devrait jouer. Non, mais c'était pour le côté, pardon. Quatrième, si vous voulez. Lacroix, qui devrait jouer ses premières minutes en Coupe du Monde et donc être titulaire pour la première fois de sa carrière lors d'un match d'un mondial. Et puis, Malo Gusto, on en avait beaucoup parlé. On avait parlé du fait qu'effectivement, le joueur du FC Barcelone, Jules Koundé, était pas forcément rayonnant. Et pourtant, il a encore la confiance de Deschamps. C'est eux les 2 vrais grands perdants de ce 3e match.
Moi, je trouve ça incompréhensible. On en a déjà parlé avec Fabrice juste avant, mais je comprends pas pourquoi la logique qu'a Didier Deschamps avec Manu Koné, avec Lucas Digne notamment, avec Bradley Barcola aussi, et Désiré Doué sur le fait de challenger le titulaire. Pourquoi on l'a pas avec Malo Gusto sur Jules Koundé, alors que Jules Koundé fait partie des déceptions sur la première partie de la compétition, et que ça doit être une vraie alternative, une vraie possibilité même en sortie de banc sur un match comme ça. Pour moi, Malo Gusto était obligatoire même dans le management et surtout pour essayer de tirer le collectif France vers le haut, parce que je pense que les aptitudes athlétiques, techniques de Malo Gusto sont supérieures aujourd'hui à Jules Koundé, pour essayer de faciliter la tâche à Ousmane Dembélé à droite, pour avoir plus de possibilités, plus de solutions. Et moi, je comprends pas. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre.
Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Il aurait dû le faire contre l'Irak, pas pour le match de demain. Parce que défensivement, qui est meilleur, Koundé ou Gusto? En termes purement défensifs.
Si je suis honnête, Koundé, mais donc, le Koundé de 2024, on en a un peu, même défensivement, je trouve. C'est pas la même chose.
Mais il est quand même meilleur, et que Noussa, qui est le joueur qui jouera contre lui, plus que Sorloth même de l'autre côté, et Haaland bien sûr, c'est la principale arme pour moi créative de cette équipe, avec Odegaard, mais qui lui jouera dans l'axe, donc ce sera Tchouaméni et Koné de toute façon qui vont marquer ou qui vont s'occuper, on va dire, d'Odegaard.
Mais tu joues pas un 16ème de finale demain, hein, Julien, c'est-à-dire
oui,
que...
Oui, d'accord, si, mais c'est quand même un match où tu veux finir premier.
Bien évidemment, mais je pense qu'avec Malo Gusto ou avec Jules Koundé, le match nul contre la Norvège, tu peux quand même l'avoir.
C'est vrai.
Et globalement, en fait, si on l'avait mis contre l'Irak, Malo Gusto, et qu'il fait un super match, on aurait dit, ah bah c'est l'Irak. De toute façon, il peut pas... En fait, l'affiche ne peut pas nous donner des motifs de satisfaction ou peut-être changer aussi la hiérarchie. Et moi, comment je le ressens, c'est qu'en fait, Deschamps ne veut pas de problème. Il veut pas de problème et il veut pas que...
Ou tout simplement, il trouve que Malo Gusto, c'est trop léger.
Voilà. Mais non, mais contre un joueur comme Nusa, je préfère Koundé tous les jours que Malo Gusto. Et j'aime beaucoup Malo Gusto. Hein. Je suis vraiment un grand fan de Malo Gusto. Il n'y a aucun problème, surtout en phase offensive. Mais défensivement,
Malo Gusto, il a déjà quand même joué des gros matchs dans sa carrière. Avec tout le respect que j'ai pour Nusa, qui est un vrai bon joueur, qui a des qualités athlétiques, qui a un vrai potentiel. Je pense, Malo Gusto, il a déjà défendu contre des gros joueurs. Je comprends l'idée hein, du match face à la Norvège, sauf que c'est toujours la même chose. Si c'est pas un gros adversaire, parce que le problème c'est que Malo Gusto, quand on arrive en émission, moi je suis pas non plus le papa de Malo Gusto, hein, je vais pas tous les jours.
T'es pas de la famille de Malo Gusto.
Non, mais ce que je veux dire c'est que je veux pas non plus être son porte-parole tous les soirs sur RMC, surtout qu'en plus j'ai pas de problème avec Jules Koundé, mais juste. À chaque fois qu'on parle de Malo Gusto avec Daniel ou avec d'autres, c'est ouais mais de toute façon c'est quoi ses références avec l'équipe de France? Bah je lui dis bah la rentrée contre l'Espagne, l'Azerbaïdjan, l'Islande. Ouais mais c'est des matchs de merde. Ouais mais ça compte pas. Ouais d'accord. Bah en fait à ce moment-là, si à chaque fois que Malo Gusto, qu'il y a un gros match, on se dit bah avec Malo Gusto, on va pas prendre de risques. Bah en fait jamais de la vie, Koundé il va tout le temps rester dans cette équipe en étant moyen. Moi j'aime pas cette conception-là, je comprends pas.
Mais Fabrice, si Didier Deschamps, a priori, ne se pose pas la question pour le match de demain, c'est que pour lui, il y a quand même un cap, une différence énorme entre Koundé et Malo Gusto, donc il peut pas entrer dans le débat ?
Son moment n'est pas venu, c'est un peu le message qui a été passé. Ça ne veut pas dire que par la suite il ne viendra pas, mais c'est vrai que pour cette Coupe du Monde en tout cas, le choix semble être clair. Moi je pense qu'il y a deux raisons qui conduisent Didier Deschamps à faire ce choix. Le premier c'est que Jules Koundé n'est pas très très en forme, en tout cas on l'a connu bien meilleur par le passé, et pour la suite de la compétition il veut lui donner le maximum de confiance et il espère qu'il soit performant demain contre la Norvège, justement pour qu'il aborde ses 16e de finale avec le maximum de confiance. Et puis le deuxième point, je lui en ai un petit peu parlé, je suis d'accord, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas faire face à une attaque quand même de très haut niveau, peut-être qu'on les néglige un peu, moi j'entends parfois les pas sur RMC hein, mais un petit peu le paysage, même ce qui peut se dire ici à Boston, j'ai l'impression que demain l'équipe de France va se balader. Et attention, il y a une grosse attaque, il y a des très bons joueurs, Odegaard, il y a des joueurs qui ont joué la finale de la Ligue des Champions, il y a Haaland, Sorloth, Nusa, tu en parlais Julien, et je pense qu'il veut aussi avoir une forme d'assise défensive et changer, déjà tu mets Maxence Lacroix parce que tu dois gérer William Saliba, t'es quasiment obligé sur ce troisième match. Tu mets ensuite un arrière droit qui n'a pas joué depuis le début, qui a peut-être moins de repères avec les autres. Défensivement, ça peut être trop compliqué de changer deux joueurs sur quatre, même trois joueurs sur quatre si on regarde le dernier match. Et je pense que toutes ces raisons ont conduit Didier Deschamps et Guy Stéphane à faire ce choix.
Ah, je suis d'accord.
Messieurs, un mot sur Lacroix, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que là c'était le souci à arrière droit. C'est quand même énorme ce qui va se passer pour Lacroix. Il va jouer un match de Coupe du Monde, il va être titulaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une suite logique par rapport à ce qu'on a pu voir lorsqu'il a eu l'opportunité de briller en bleu, parce que voilà, il est tout neuf, hein, il est arrivé en bleu. On rappelle lors justement du rassemblement.
Non, c'est pas, qu'il avait c'est pas, c'est pas logique pour moi. C'est pas logique.
Moi, pour Konaté, je suis dévasté.
Non, mais c'est pas logique. C'est une trajectoire de carrière qui est très inspirante pour tous les joueurs de l'équipe de France. C'est qu'il a saisi sa chance, mais c'est pas logique. Si on m'avait dit il y a un an que Lacroix passerait devant Konaté sur un match de Coupe du Monde, j'aurais pas cru une seconde.
Mais est-ce que mais aujourd'hui, pas trop c'est normal qu'il passe
bien sûr,
devant Konaté?
Par contre, oui, sur la dynamique, bah, moi je suis pas fou. Je viens de te dire que Malo Gusto doit être mis sur le terrain parce que les performances sur les dernières semaines et la forme de chacun doit primer. Et aujourd'hui, Lacroix est meilleur que Konaté. Et Konaté, il y a un gros décalage entre ce qu'il dit, entre ce qu'il pense être en équipe de France. En plus, j'aime beaucoup moi humainement le joueur, mais il y a un décalage en fait. Il y a un décalage avec ce qu'il a été à Liverpool, notamment les années où il a fait finale Ligue des Champions, ou même l'année d'avant, les six premiers mois où ils sont champions, où il est monstrueux. Mais entre la perte de son papa, entre la perte de Jota, entre sa prolongation, j'ai l'impression que Konaté n'est plus le même joueur. Et moi, je trouve ça bien que Deschamps mettre les meilleurs éléments sur le terrain. Quand tu vois
après, sur un match de ce niveau-là, excuse-moi Walid, mais sur un match de ce niveau-là, et c'est bien parce que tu as appelé de tes voeux la titularisation de Malo Gusto, là on va vraiment voir. Il a l'habitude de jouer ses rendez-vous et ses gros matchs, Ibrahima Konaté. Là, Maxence Lacroix, on va voir si le costume n'est pas trop grand. Et très honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus et j'espère pas, parce qu'encore une fois, c'est un bon gars, Maxence Lacroix. Il a fait vraiment de très belles choses, notamment à Crystal Palace. D'ailleurs, il va y avoir un transfert très intéressant pour lui. Mais là, face à Haaland, face à tous ces attaquants-là, c'est autre chose de jouer un match.
Oui, bien sûr, mais contre la Colombie,
même en termes de préparation, de la gestion des émotions, c'est encore autre chose.
Contre la Colombie et contre
un match amical.
Et contre le Brésil, il a quand même montré des belles choses. Oui, enfin c'est un match amical. Bah alors comment on fait en fait, Karine? Alors on juge quoi?
Mais non, mais on est très content de le voir demain. Droit de se poser des questions et de se dire est-ce que le costume bien. Effectivement, il va l'endosser en se disant j'ai toujours été là.
Ok, bah Konaté, t'as combien de matchs de référence de Konaté depuis qu'il est avec l'équipe de France?
La question sur Konaté, elle est légitime. La question sur la Croix, elle est forcément légitime. Il arrive au mois de mars.
Il y a plus de matchs de référence de Konaté quand même. Et puis il connaît très très bien Dayo Upamecano. Ils ont longtemps joué ensemble.
Enfin, depuis combien de temps Konaté n'est pas bon en équipe de France? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un match, moi je suis désolé, il y a même pas. Il y a deux semaines contre la Côte d'Ivoire, on a vu quand il est sorti, on a vu quand Upamecano est sorti, quand il était sur le terrain, on a vu la différence. Il y a eu des largesses défensives. L'année dernière contre l'Espagne, il a pris l'eau avec Clément Lenglet. Les matchs qu'il avait fait contre la Croatie sur la première mi-temps, ça avait été catastrophique.
Moi j'aime beaucoup Konaté. Il fallait absolument mettre Ibrahima Konaté. Moi j'ai simplement qu'il y a une réflexion qu'il y a eu et on va voir s'il a pris le.
Après
le match. De toute façon, on peut le savoir après le match.
Ah si se vote demain, il se vote demain. Mais sur aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je mets ça en corrélation avec le choix Koundé et Malo Gusto. En fait, on a un Didier Deschamps qui, pour le coup, en fait, est logique dans la dynamique sportive, parce que Konaté, nouveau joueur du Real Madrid, qui était là depuis la Coupe du Monde 2022, qui a même joué la Coupe du Monde 2022 et quand Varane était blessé, bah c'est peut-être sa meilleure période avec l'équipe de France. C'est sûrement sa meilleure période avec l'équipe de France. Il pourrait aussi faire le CV du club, le CV de l'équipe de France et primer sur Konaté. Et moi, je trouve ça quand même intéressant. Sauf que il y a une incohérence entre les deux. Maintenant, toi et Julien, vous me dites que il faut aussi le bon mix, et moi je peux le comprendre parce que il peut pas trop changer, très bien. Mais moi, je trouve que Lacroix. Après, oui, il connaît Haaland. Ça fait quand même 4 ans qu'il a Crystal Palace.
Le gardien suédois, la plus belle occasion japonaise, c'est maintenant avec cette frappe de Nakamura, entrée dans la surface de réparation. C'était très bien fait, très belle combinaison japonaise du pied droit, intérieur du pied. C'était bien placé. Et la belle horizontale vers la gauche de Zettelström pour la Suède qui préserve pour l'instant le 0-0. Ce sont les dernières secondes de la première période. Domination du Japon pour l'instant.
Merci beaucoup, Mauro Hogan.
Mais sur la saison en club, Lacroix est meilleur que Konaté. Hein. Sur la saison en club, alors il en a pris 3 contre City et Haaland au match aller, 2 buts d'Haaland notamment. Et le match retour, il en prend 3 aussi, mais Haaland n'est pas là. Mais sur la saison avec Crystal Palace, il mérite. Je me rappelle avoir été lors de sa première convocation, on était assis ensemble dans l'Eurostar pour venir à Paris. On avait longtemps discuté et lui dans son esprit c'était il y a Upamecano, il y a Konaté, il y a Saliba, mais si je peux me faire une petite place, je me ferai une petite place. Mais je pense pas que lui quand il arrive à ce moment-là, il se dit que il sera titulaire au match contre la Norvège en équipe de France.
Il a gagné une chance, c'est à lui d'être performant demain pour continuer, parce que s'il est bon demain, très honnêtement, et là ça va être clair et net, s'il est bon, c'est le troisième dans la hiérarchie derrière Upamecano et Saliba, et ça va être très dur, mine de rien, très dur psychologiquement à encaisser pour Ibrahima Konaté, et c'est tout à fait logique.
C'est déjà dur à encaisser aujourd'hui. Parce que pour moi, il y aura pas d'autres spots pour qu'un numéro 3 joue, Fabrice. En fait, donc
hors blessure.
Hors blessure. Si tout va bien pour les deux, et on le souhaite, parce que Saliba ou Upamecano, c'est monstrueux. Mais on parle quand même que Konaté, c'est un joueur qui devait démarrer l'Euro avant le match contre le Canada.
Le déclassement est incroyable.
Et à ce moment-là, il est clairement le joueur qui doit accompagner Upamecano. Et il y avait beaucoup de gens qui appelaient la titularisation de Saliba. Il y a un France-Canada 0-0 qui paye pas de mine comme ça juste avant la compétition. Derrière Saliba Upamecano, c'est monstrueux à l'Euro. Derrière, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, on a senti la différence. Et aujourd'hui, c'est Maxence Lacroix qui était à Wolfsburg il y a 5-6 ans, Crystal Palace qui roule sa bosse, qui lui passe devant. Ouais, c'est ouais.
Et c'est d'autant plus dur que c'est quelqu'un qui garde quand même une influence dans le vestiaire qui est très important. Tu parlais tout à l'heure, Walid, du discours qu'il peut avoir, qui est très bon hors terrain. C'est vrai que c'est quelqu'un qui parle bien,
ah,
qui
fédère, super, qui a toujours, super mec,
qui est toujours dans le bon état d'esprit, donc qui a adoré des autres. Et c'est vrai que j'espère que ça va pas lui mettre un trop gros coup au moral, quoi.
Ouais. Toute la saison, mais de toute façon, toute la saison, comme tu l'as rappelé, Walid, c'est un cauchemar, le pauvre.
Oui, après,
l'été dernier, à ce qu'il était là, c'est très compliqué.
C'est pour ça que moi, j'ai du mal à beaucoup le critiquer parce que, extra-sportivement, il a eu des, je pense qu'il a eu des épreuves qui sont très, très dures à accepter pour un homme. Après, sur le cauchemar, sur la déception, il va quand même au Real Madrid, Ibu Konaté, je pense qu'il a un énorme spot à avoir, de fermer des bouches, entre guillemets, et
à montrer. À lui de retrouver son niveau.
Et à montrer sa réelle valeur.
Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations concernant donc l'équipe de France. On le rappelle, demain le match est lieu à Boston entre la France et la Norvège, et donc il devrait y avoir des changements, et notamment un grand jour pour Maxence Lacroix qui devrait connaître sa première titularisation lors d'un match de Coupe du Monde. Première minute en Coupe du Monde pour ce joueur qui a débarqué en bleu en mars dernier.